Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Arthur, roi de justice. Bonjour Sylvain Ferrieux.
Bonjour Émilie et bonjour à tous les auditeurs.
Sixième épisode déjà de notre deuxième saison, on est très heureux de passer ces moments avec vous. Aujourd'hui, nous allons parler de magie. Alors, c'est un raccourci. En fait, ça fait donc maintenant plusieurs émissions que nous abordons la légende arthurienne sous le prisme de la justice. Donc, quelque chose d'assez réaliste, pas forcément terre à terre, on l'a vu, puisqu'on parle aussi de justice divine, mais enfin quelque chose qu'on a essayé d'ancrer dans ce monde du Moyen-Âge. Mais il y a un aspect de la légende arthurienne qu'on a un petit peu laissé de côté pour l'instant, et c'est l'aspect fantastique, parce que il se passe des choses extraordinaires dans cette légende, des choses qui sont importantes dans l'histoire. Alors, qu'est-ce qu'on en fait ?
Je crois qu'on en fait un des éléments les plus parlants et les plus mémorables de la légende arthurienne, parce que il suffirait de citer un titre de film, Excalibur, qui dit déjà beaucoup de choses sur une épée qui est censée avoir été fabriquée quand le monde était jeune, que la terre, l'homme, la plante ne faisaient qu'un dans le dos du dragon, effectivement, et que la mort n'était qu'un rêve. Donc on est dans une époque qui est... non pas préhistorique, mais anhistorique, littéralement, qui remonte plus qu'à la nuit des temps, et qui donc crée tout de suite une atmosphère de mystère. Cette épée, elle est censée être indestructible, mais elle peut apparemment être détruite si on l'utilise mal. Donc c'est encore une des grandes questions. Et puis, si on doit chercher d'où vient cette idée-là, eh bien, il y a deux choses à dire. Premièrement, un élément fantastique, ou un élément qui sort un peu de l'ordinaire, apporte souvent beaucoup de piquant, d'intérêt à un récit. Parce que les récits purement réalistes, bon, si vous êtes Zola, tant mieux, mais si vous trouvez que vous pouvez vous ennuyer avec la chevalerie telle qu'elle a pu être décrite ou telle qu'elle a pu exister, faites simplement le comparatif avec les chansons de gestes françaises. Voilà, je crois que le meilleur exemple est là. Est-ce qu'on peut citer beaucoup d'éléments issus des chansons de gestes françaises qui sont restés dans l'imaginaire populaire, à part Durandal? Oui, c'est vrai, finalement, on a Roland, on a le col de Roncevaux, une bataille épique, etc., bon, apocalyptique aussi, quelque part, avec Durandal. Durandal, l'épée de Roland, qui a quand même des caractéristiques un peu surnaturelles. Et c'est un peu le seul élément, d'ailleurs, dedans, hein, mais bon, et qui ne doit surtout pas être... entrer en possession des sarrasins qui sont des mains indignes, oulala. Et donc, c'est pour ça qu'il essaie de la casser sur le rocher, il n'y arrive pas, enfin voilà, vous connaissez l'histoire. Mais c'est un peu le seul élément. En dehors de ça, est-ce qu'on sait par exemple que l'épée de Charlemagne s'appelait Joyeuse? Je ne suis pas sûr qu'on le sache beaucoup. Parce que les éléments de la légende de Charlemagne et de la chanson de gestes sont quand même rattachés à une idéologie très différente de celle de la légende arthurienne. En raison de ses sources, en raison aussi de la volonté qui était décrite, Charlemagne est un conquérant, on essaie de présenter le plus grand conquérant, c'est un des plus grands aussi parangons de la chrétienté, donc c'était pas un personnage qui fait dans la dentelle et qui fait dans le mystère et qui tisse sa toile ésotérique, c'est pas du tout ce genre de personnage-là. Donc c'est un personnage lumineux, dès qu'il y a un païen, de toute façon, c'est ce qu'il en fait, donc les pauvres saxons, d'ailleurs, à l'époque, ont pris cher, donc ça fait partie de des choses qu'on peut peut-être leur reprocher à certains égards, mais ça ne rentre pas dans le domaine tellement du surnaturel. Puis le personnage est historique et documenté aussi, ce qui quand même a tendance à compliquer le recours au surnaturel. Arthur, on a beaucoup plus de vagues, on a beaucoup plus de situations de mystères, d'éléments qu'on peut manifester. Et disons-nous bien qu'au Moyen-Âge, l'idée d'utiliser des choses surnaturelles n'a rien de particulièrement gênant, à condition que ça reste employé dans un cadre avec une destination... positive, lumineuse, disons, parce que vous avez deux types de magie. Vous avez la magie reliée à la notion, à la double notion de nature et de surnature dans l'idéologie et dans la philosophie médiévale, plus la philosophie médiévale, qui est que le naturel, c'est-à-dire la création de Dieu, obéit à certaines règles. De temps en temps, ces règles sont préétablies, un peu comme les lois d'ailleurs, c'est un peu l'idée, les lois de la nature, lois naturelles d'ailleurs, ça tombe bien. Et derrière ça, de temps en temps, eh ben, il faut des exceptions. Parce que la loi naturelle ne peut pas résoudre toutes les questions, résoudre tous les problèmes. Donc de temps en temps, vous avez une intervention directe du législateur ultime, qui est Dieu, et qui va lui-même intervenir au niveau surnaturel. C'était tout à fait justifié dans la philosophie médiévale, disons-le. Et cette surnature, ce surnaturel, est totalement positif si c'est l'œuvre de Dieu. Alors, de temps en temps, c'est des trucs tout bêtes. Hein. C'est-à-dire qu'on a certains exemples dans les récits où on parle d'une tempête qui se déclenche comme ça tout à coup et qui bat deux armées qui allaient s'affronter parce qu'en fait c'était pas le moment et Dieu avait décidé que non. Ou alors il arrête lui-même une tempête pour permettre justement aux chevaliers de progresser ou de faire ceci. Enfin, de temps en temps, il fait des choses, il intervient directement officiellement, même si ça ne m'apparaît pas comme quelque chose de surnaturel au niveau de l'événement lui-même, mais la volonté de Dieu étant impliquée dans l'histoire, on pourrait, enfin c'est pas qu'on pourrait, les auteurs le décrivent comme une intervention directe, intervention divine et Deus ex machina, c'est l'idée qu'on retrouve dans cette surnature.
Et là, ça nous fait penser aussi au mythe grec, hein, où c'est à peu près la même...
L'intervention des dieux, oui, effectivement. Oui, oui. Oui, le Deus ex machina, effectivement, a tendance à... Alors, quand il agit pour la bonne cause, on n'est pas du tout dans quelque chose de gênant. On sera peut-être dans quelque chose de plus embêtant si on retourne à des notions de ce qu'on appelait à l'époque nigromancie, la magie noire, ou ouais. Les comportements... Alors, est-ce que Merlin est un nécromant, par exemple, parce que c'est l'idée. Est-ce qu'il pratique la magie noire? Parce que nécromancie, c'est avec les morts, nigromancie, ben, c'est un peu la même idée. C'est une déformation, d'ailleurs. Est-ce que lui pratique la magie noire? Oui, il est capable de le faire. Hein. Il peut tout pratiquer n'importe quel type de magie. Mais Merlin est retenu...
Qu'est-ce qu'on appelle la magie noire au Moyen-Âge? Qu'est-ce qui fait peur et qu'est-ce qui est interdit?
Globalement, ce serait tout ce qui bouleverse, justement, les règles de la nature. Mmh. C'est-à-dire que c'est considéré... par exemple, faire un filtre d'amour a un aspect, quand même, de magie noire. Après, est-ce que ça dépend un petit peu, parce que si c'est pour une bonne cause, on pourra peut-être le justifier, mais de manière générale, on a quand même une petite crainte des empoisonneuses, des bidouilleuses de poison et d'herbes diverses, des herboristes en herbe et autres, c'est le cas de le dire, qui font pas forcément, enfin qui ne sont pas pour chasser, hein, parce que ça, ce sera beaucoup plus tard. Les femmes ne sont pas non plus les victimes prioritaires au Moyen-Âge du tout de la vindicte des fanatiques, mais. On s'en méfie un petit peu. C'est-à-dire qu'on ne sait pas exactement d'où vient cette tradition. Parce qu'on parle, au Moyen-Âge, on parle beaucoup, et d'ailleurs à la suite, hein, dans les travaux d'un des futurs grands médecins, mais qui s'est beaucoup inspiré de l'ésotérisme, qui est Paracelse, on lui demande, enfin, il répond, au moins il explique dans une de ses préfaces, de ses travaux, comment est-ce qu'il a obtenu les connaissances qu'il a eues sur les plantes, et il le dit, ce sont les sorcières, d'une certaine façon. Enfin, ce sont les bonnes femmes, ce qu'on appelle les... Ouais. Et les bonnes femmes, ce sont pas des bonnes... Enfin, les bonnes femmes, ce sont les bienfaisantes, c'est-à-dire ce sont des femmes qui sont capables de trouver des remèdes. Donc on sait qu'il y a une survivance, de toute façon, des connaissances déjà médiévales d'herboristerie, mais même au-delà, on sait que c'est quand même relié à toute une tradition qui pourrait être rattachée, d'une, à des notions d'ésotérisme. Mais si on allait historiquement plus loin, on dirait que c'est rattaché aux survivances des anciennes religions, parce que n'oublions pas que chez les druides notamment, et Merlin se rattache quand même pas mal à cette catégorie, chez les druides, on a trois catégories de druides, c'est-à-dire qu'on a ce qu'on a... Alors les noms originels ne sont pas très bien connus, mais on s'accorde à dire que on a les bardes, qui sont à la fois des historiens, des chanteurs, mais justement parce que le meilleur moyen de retenir un élément, c'est de l'apprendre en chantant. Donc ils ont les deux caractéristiques, qui sont à la fois artistes et érudits. On a les ovates, qui sont justement, alors c'est un nom qui peut être plus ou moins inspiré du latin, mais bon, qui correspond à des guérisseurs et à des médecins, et qui sont spécialistes en herbes, en remèdes naturels, enfin les meilleurs remèdes qu'on connaissait à l'époque. Et puis vous avez les druides, qui sont les conseillers politiques et les conseillers cérémoniels, donc ceux qui pratiquent toutes les grandes cérémonies et qui ont tendance à conseiller les rois. Alors qu'est-ce qu'on retrouve chez Merlin? On retrouve de tout. Merlin est celui qui explique un certain nombre de choses, qui fait des prophéties, donc il a ce côté barde, il a ce côté ovate, parce qu'effectivement il a ce pouvoir-là aussi de donner les indications, enfin de trouver un certain nombre de remèdes. Il va apprendre d'ailleurs en partie, on dit à Morgane, oui, on dit qu'il a enseigné à Morgane, on dit aussi, ben, il a enseigné bien sûr à Viviane un certain nombre de sorts, donc ça lui donne ce pouvoir-là, et puis c'était le conseiller du roi, donc on a tous ces éléments. Donc ne pas tracer directement un lien avec le paganisme, pratiquement le paganisme celtique, bien entendu, parce que c'est celui qui avait lieu, qui existait et qui avait pignon sur rue à l'époque, jusqu'à évidemment son remplacement forcé par le christianisme, cette notion-là n'est pas ignorée au Moyen-Âge. Il y a des survivances qu'on connaît et sur lesquelles on s'accorde volontiers. Après, justement, ce surnaturel peut faire appel à des notions qui sont plus anciennes que la chrétienté. Ça peut déranger, Et là, c'est vraiment une question d'opportunité, quelque part. C'est-à-dire que si ça dérange, est-ce que Merlin est un être complètement lumineux? Non, on sait qu'il est complètement mixte. C'est-à-dire qu'il est à la fois le prophète qui va annoncer la christianisation de la Bretagne, le développement de la légende arthurienne et son rayonnement dans le monde. Donc ça, c'est le côté prophète de Merlin. Et puis derrière, il y a ce côté fils du diable qui a effectivement des pouvoirs magiques, qui change d'apparence, qui fait beaucoup de choses. Ça, c'est déjà... parler de magie sans parler de Merlin, c'est difficile. Parler de magie sans parler de Morgane, qui était aussi réputée. On disait que Morgane faisait dans la nigromancie, elle aussi. Et donc, elle était encore réputée, encore plus perverse que Merlin ne pouvait l'être. Alors qu'en réalité, comme je l'ai dit précédemment, elle a surtout comme caractéristique, on le dira plus tard, mais d'être une fée. Et une fée, c'est une femme de pouvoir. Et Morgane contrôle les gens qui débordent et qui ne respectent pas les règles. Donc c'est un des pouvoirs qu'elle a. Elle est punitive. Elle a le côté peut-être de la furie romaine aussi. Mm-hmm. Elle a cette capacité-là. Elle a une fonction judiciaire. Et donc cette fonction judiciaire, de justice immanente, elle s'en sert avec les moyens qu'elle a. Quand la femme ne se bat pas, le non-combattant, en général, a recours à des pouvoirs un peu surnaturels. On a parfois des personnages qui ressortent, c'est pas les seuls hein, qui ont ces pouvoirs-là. On a un enchanteur qui ressort, c'est pas Merlin, c'est Eliavres, je crois, qui est un personnage qui apparaît dans la première continuation de Perceval avec Caradoc, qui n'est pas le goinfre qu'on imagine, du tout, précisons-le, mais un personnage bon, qui va participer à la quête du Graal, et qui a dont la mère apparemment a plus ou moins manipulé un petit peu son père défunt avec cet enchanteur, avec l'aide de cet enchanteur qui lui a concocté toutes sortes de filtres pour aussi avoir accès à ses privautés, et il va sérieusement les punir tous les deux. Mmh. Enfin bon, sans, il va pas aller jusqu'à les tuer parce qu'il est magnanime, mais il va quand même les punir et justement les amener devant la justice. Et là, il est précisé que ce sont des magiciens plutôt négatifs. Donc ces légendes-là qui sont inspirées des personnages païens existent toujours dans la légende arthurienne. Et ce ne sont pas les seules traces de religion antécédente qu'on retrouve dans la légende arthurienne, d'ailleurs, parce que quand on pense à cette légende-là, il faut toujours superposer les deux origines. On a l'élément chrétien, et on explique beaucoup l'existence de certains éléments par des actions ou des événements qui sont liés à une interprétation ou une exégèse un peu biblique, mais souvent les créations... sont mixtes. On peut trouver un exemple. D'ailleurs, j'en ai un tout de suite là qui me vient en tête. Stonehenge, par exemple. Alors, Stonehenge, c'est autour de Salisbury, hein, on n'est pas très loin. Oui. Quand on parlait de la dernière bataille, c'est sous Stonehenge, hein, globalement, que les chevaliers se sont affrontés. Et ce qui est relativement intéressant, c'est que dans une des versions de la légende arthurienne, on explique que c'est Merlin qui a transporté les pierres lui-même, comme un grand, enfin d'Irlande et tout, il les a fait venir. Donc forcément par magie, évidemment.
Évidemment.
Bon, sauf que, alors c'est pour expliquer qu'il a fait ça parce qu'il voulait consacrer un petit peu la légende, enfin, et la suprématie d'Arthur. Bon, pour quelle raison, ça reste toujours un peu mixte, hein, on est dans le païen, dans le chrétien, est-ce que c'est le prophète ou le magicien qui parle, on ne sait pas trop. Mais dans les deux cas, il ne faut pas oublier tout simplement que Stonehenge, c'est proto-celte, c'est-à-dire que ça remonte, ce ne sont pas les Celtes hein, qui ont instauré ça. Non. Et ce sont les habitants de l'Irlande avant les Celtes, et ça remonte à avant l'âge de bronze, hein. On est à une période, et on est dans une ancienne religion, alors on pourrait rattacher comme d'habitude à la religion celtique, mais là, il faudra remonter encore plus loin pour en parler, une religion qui est encore très mal connue et sur laquelle on travaille pas mal. Mais justement, ça fait partie de ces amalgames, de ces acculturations, qu'on peut décrire comme ça, qui existent entre le païen et le chrétien. Quand on parle des instruments, d'ailleurs, de pouvoir, parce que n'oublions pas, l'épée de souveraineté, bon, Arthur. Toutes les armes de souveraineté celtique, d'ailleurs, sont représentées, globalement. Donc, deux armes féminines, deux armes masculines, mais essentiellement, pour reparler des plus importantes, Excalibur, bien sûr. Bon, est-ce qu'elle a été creusée dans les reins du dragon, etc. À un moment, enfin, plantée dans les reins du dragon, c'est plus tard, mais effectivement, est-ce qu'elle a été creusée par le souffle du dragon? Est-ce qu'elle remonte à au-delà de des anciennes religions, quelque part, on n'en sait rien. Mais évidemment, elle a ce double aspect. Et elle est considérée aussi comme évidemment une arme qui est plus ou moins dans les mains, qui est une arme quand même païenne, mais derrière, elle est quand même rattachée à un... Alors il y a un... je pense à ça parce qu'elle est rattachée à un double... C'est pareil pour Arthur, il a une double étiquette, il a un double étendard. Hein. À un moment, il se bat avec l'étendard du dragon celte, et à un moment, il va se battre avec l'étendard de la Vierge Marie. Quoi. Comme ça, on retrouve toujours... On s'arrange toujours pour qu'il ait marge aux deux, aux deux religions, comme ça, tout le monde est content. Et c'est parce que, quelque part, ce mythe et ce cycle, ça rattache beaucoup à une évolution qui est quand même, enfin, qui comme par hasard correspond à la christianisation de la Grande-Bretagne. Il ne faut pas s'étonner là-dessus. Le Graal et la lance qui apparaissent dans le cortège et dans la cérémonie du Graal, évidemment, sont connus, précisons, on en reparlera certainement aussi, mais ils existent aussi, ce sont des armes de souveraineté celtique. Donc on retrouve les éléments qui sont systématiques. Chez les personnages qui sont originellement conçus dans la légende celte aussi, je pense à Gauvin ou à d'autres personnages, Yvain par exemple. Yvain, c'est particulier, la relation avec le lion et comment est-ce qu'on la décrit? Est-ce qu'on la décrit quelque chose de surnaturel chrétien? Parce que le lion, alors faut voir qu'au Moyen-Âge, le lion c'est un personnage à part, hein, c'est littéralement la version animale du Christ. Donc le lion est capable de ressusciter les lionceaux, faut le savoir, les lionceaux meurent pendant 3 jours et le lion arrive et leur souffle dessus. Et ben voilà, il les réveille et il a le pouvoir de ressusciter ses lionceaux, quand même, ce qui est quand même assez extraordinaire. Le lion a un pouvoir de pardon, le lion est capable de... Enfin, il y a tout un ensemble de... Et donc, ce lion est aussi capable parfaitement de comprendre les intentions de son sauveur, Yvain, qui l'a sauvé d'un affreux serpent. Ah, le Christ contre le diable, encore une symbolique. Mais qui peut s'expliquer aussi parce que, chez les païens, les pouvoirs de communiquer avec les animaux ou les plantes n'étaient pas quelque chose de complètement invraisemblable. Donc, l'origine, qui remonte au-delà du christianisme, ne fait pas obstacle à la possibilité que le lion soit une création païenne aussi à ce niveau-là. Surtout qu'un lion, c'était peut-être pas un lion, c'était peut-être un lion d'Europe, un lynx, on sait pas. Mais bon, dans tous les cas, il y a toujours la possibilité, effectivement, de traiter avec les animaux, ça n'est pas nouveau. On a parlé d'autres personnages comme Sagremor, et puis Gauvin, dont on a dit aussi que... Enfin, Sagremor qui a la caractéristique de toujours se faire massacrer la figure avant de se réveiller. Enfin, voilà, parce qu'il se bat comme un pied jusqu'au moment où il est au bord de la mort, et là, tout à coup, il devient extraordinaire. Il passe à deux doigts à chaque fois de ne pas être capable d'affronter un adversaire supplémentaire, mais il y arrive toujours. Et Gauvin, qui a la caractéristique de retrouver toutes ses forces à midi. Donc le chevalier solaire, par définition. Le chevalier solaire, on se doutera bien que la conception qu'on en a est une conception qui s'inspire beaucoup du paganisme. Parce que les rythmes solaires, on n'était pas loin du solstice. Hein. Donc effectivement, midi, c'est l'heure du soleil à son zénith. Et ça, les païens en avaient parfaitement conscience. Donc, fort heureusement, comme la passerelle est aisément faite entre l'ancien paganisme et le christianisme, il n'est pas difficile non plus de réutiliser cet élément-là pour en faire un chevalier lié au jour, à la luminosité, donc au bien, et donc à Dieu quelque part. Ce n'est pas trop difficile. Maintenant, tous ces éléments-là, on retrouve ce double appareil. Il reste, si on parle des objets, des personnages, des magiciens, il reste peut-être les éléments qui, en général, font le succès des séries qui ont le succès, hein, donc aujourd'hui, qui connaissent le succès, c'est qu'il faut quand même mettre quelques monstres. Ce qu'on remarquera, c'est qu'il y a quand même relativement peu de monstres dans la légende arthurienne, en fait. On a tendance à systématiquement, dès qu'on est dans l'imaginaire celtique, à considérer, à tout mélanger et à tout regrouper sous une bannière, j'allais dire, pan-tolkienienne.
Oula, non, c'est compliqué, attention. Comme
ça. Alors, c'est-à-dire qu'en gros, on sait que Tolkien s'est inspiré du scandinave, du celte, enfin, il s'est inspiré de diverses choses. Donc, du coup, l'espèce d'acculturation générale, c'est de dire, bon, tout ce que Tolkien a décrit, c'est dans la table ronde. Non. Mais qu'il y a souvent des liens qui sont faits. La plupart des éléments que Tolkien a décrits ne sont pas dans la table ronde. Les elfes ne sont pas celtiques, par exemple. Voilà, il faut le dire.
Et non, ça y est, c'est dit.
Voilà, il était grand temps de le préciser. On a toujours l'idée que les elfes sont dans la religion celtique, mythologie celtique, non. Non, c'est scandinave. Les trolls, pareil, même si on en rencontre souvent en Bretagne. Mais c'est encore autre chose, comme partout. Hein. Mais tous ces éléments-là, donc, ne sont pas fondamentalement des... appartiennent pas du tout, enfin appartiennent aux Scandinaves. Les éléments qu'a repris Tolkien sont en partie celtiques. Alors sur les nains, on en a dans le Scandinave et dans le celtique. Maintenant, on en retrouve hein, dans la table ronde. Il y a même, alors c'est entre les deux parce que il y a certains vassaux du roi Arthur qui sont des rois nains. Ça c'est dit. Mm-hmm. On les présente à un moment dans un des grandes, une grande assemblée annuelle où on parle des rois nains qui étaient des personnages relativement nobles, etc., de caractère. Mais l'imagerie médiévale sur le nain, elle est la même que celle du géant. Et ça, c'est une tradition qui a été très, très bien explorée. Alors, je ne vais pas paraphraser ce qu'il a dit, mais par Claude Lecouteux, mm-hmm. notamment. Et il précise qu'il y a une origine norroise et germanique de ce qu'on appelle le dwerg, le vergar, donc, ou le dwarf en anglais. C'est tout ce qui est difforme, en fait. C'est la même origine que le mot « twisted » en anglais, qui est « difforme ». Et donc, le nain est déformé, le géant est déformé, appartiennent à la même famille la plupart du temps, même si un est beaucoup plus petit que l'autre, mais en fait, ils ont tous deux comme caractéristique d'être détordus. Et ils sont tordus à tous les niveaux. Donc, c'est-à-dire que le géant, souvent, est une brute sanguinaire idiote, et le nain est un petit pervers. Donc,
c'est
voilà,
résumé.
C'est tout dit, voilà. Voilà. Et ces personnages-là, on les retrouve dans les gens du roi Arthur. Le géant, on le retrouve assez souvent. Quand on parle du Morholt d'Irlande, qui est apparemment un personnage qui... Bon, qui est un, pas un chevalier, mais qui est un espèce de grand brigand qui est lié justement aux grandes familles régnantes irlandaises, c'est un géant. Alors est-ce que c'est un monstre qu'on sort de ses chaînes régulièrement, de sa caverne pour aller faire peur aux gens? Non, pas du tout. C'est un type normal, il a sa vie, hein, c'est un personnage comme n'importe quel personnage arthurien, sauf que c'est un brigand et que, bon, à un moment... Justement, Tristan finira par lui régler son compte parce qu'il a commis beaucoup trop d'infractions. Donc voilà, on n'est pas dans le personnage complètement surnaturel sorti d'une caverne monstrueuse. Parlons de personnages sortis d'une caverne, on serait tenté de penser au dragon. Et là encore, on va être un peu déçus. Les deux seuls dragons qu'on observe régulièrement, c'est ceux de la prophétie de Merlin. Ils sont symboliques. Mm-hmm. C'est le dragon celte contre le dragon saxon, le dragon rouge contre le dragon blanc. Et c'est le dragon rouge qui l'emporte, mais qui est mortellement blessé, car il faut pas oublier que la royauté celte ne durera qu'un temps. Cette royauté celte qui est aujourd'hui reportée sur le drapeau du Pays de Galles. C'est aussi pour ça qu'on a le dragon du Pays de Galles. Donc les Celtes se revendiquent du dragon rouge. C'est pas quelque chose qu'on retrouve tous les jours dans la légende arthurienne. Et d'ailleurs, les chevaliers arthuriens ne sont pas naturellement sauroctones. C'est-à-dire qu'ils ne tuent pas les dragons pour le plaisir de tuer les dragons, ça se fait pas. Ils respectent les animaux, eux. Donc, ils ont déjà pas mal d'avance sur beaucoup de gens qu'on connaît encore aujourd'hui et qui ont tendance à jouer pour le sport. Donc, c'est pas du tout le cas du chevalier. Il ne tuera jamais pour une mauvaise raison. Donc, cet aspect-là, on le retrouve aussi dans la légende arthurienne. Un monstre, puisqu'il faut en trouver. Alors, cherchons un monstre qui soit un peu une créature malfaisante et affreuse. Et je pense au chapalu. Voilà,
Le chapalu.
Le chapalu.
C'est moins vendeur que le dragon.
Le dragon, oui, c'est,
a priori.
Ça fait moins, voilà. C'est peut-être un petit peu moins... le nom est un peu à revoir. Mais c'est, comme son nom l'indique, ce serait une sorte de gros chat monstrueux qui serait noir avec des gros yeux jaunes méchants et qui mordrait tout le monde et qui attaquerait les gens du côté du lac de Genève. Alors, c'est pas un... Oui, parce qu'à l'époque... quel rapport avec Arthur? Il l'a affronté, il l'a battu. Donc, c'est à l'époque où, dans les premiers récits, Arthur était un peu le conquérant de l'Europe. Il se promenait à droite à gauche, et donc sur la route de Rome, on lui a dit « Est-ce que tu voudrais pas nous débarrasser du chapalu qui traîne dans le lac de Genève ?» Ou pas loin, enfin, on sait pas trop, mais de toute façon, il est méchant, il nous embête. Ouais, ok. Il a réglé le compte du chapalu comme il fallait, et c'est décrit dans... Vous le trouverez dans la Pléiade, hein, cet épisode. C'est un épisode qui n'est pas structuré autour des récits classiques. C'est une petite légende qu'on rajoute. Donc on a relativement peu d'éléments qui soient de combat face à des gros monstres. C'est assez rare. En revanche, des monstres à taille humaine, mine de rien, Alors précisons encore une fois que la plupart des monstres décrits dans Tolkien, si on prend, enfin les monstres à taille humaine et méchants, on pense aux orques et aux gobelins. Le gobelin, c'est d'origine française, hein, donc c'est un élément qu'on retrouve depuis quelques siècles, effectivement, dans la mythologie. Mais on ne peut pas vraiment lui accorder une origine arthurienne, même s'il y a une créature qui ressemble. Quant à l'autre créature qu'on décrit beaucoup dans le mythe et le cycle de Tolkien, c'est l'orque. L'orque, il y a une explication très simple. L'orque, en réalité, on ne le sait souvent pas, mais c'est un terme saxon pour décrire un envahisseur. Et en réalité, les Normands, quand ils sont arrivés en 1066 en Angleterre, et qu'ils ont été décrits par les Saxons, ont été décrits sous le terme de orc. Donc ce n'est pas Tolkien qui a inventé le terme non plus, mais ce sont les Saxons qui l'ont involontairement pérennisé avec cette expression un peu particulière. Mais donc l'orque n'est pas une créature non plus qu'on retrouve dans la légende arthurienne. D'autant que les Saxons n'étaient pas forcément non plus en odeur de sainteté à ce moment-là dans la légende arthurienne, donc non. C'est certainement pas leur vocabulaire qu'on avait utilisé. Et il reste ce qu'on appelle, alors on les retrouve dans Yvain, notamment dans Le Chevalier au Lion et d'autres récits, de temps en temps un chevalier va affronter des créatures virtuellement maléfiques. Et ces créatures se battent comme en traîtres, évidemment, en tous les défauts du monde. Elles sont vislardes, elles sont malveillantes, elles sont cruelles, traîtresses, enfin elles ont toutes les qualités, et elles ont aussi la caractéristique d'être surnaturelles. Yvain va être confronté comme ça à ce qu'on appelle, alors selon le terme, ça dépend du traducteur, le traducteur parlera parfois de diablotins. C'est vrai que ça ressemble un peu à des diablotins, ce sont des créatures toutes noires, cornues, un peu qui tirent sur le faune, qui tirent sur le diable. Faut savoir que entre le 11e et le 12e siècle, la notion qu'on a du diable, je vous ramènerai à La Nuit au Moyen-Âge notamment, qui est un excellent livre, ou aux œuvres de Robert Mechanblade, le diable au XIe siècle est décrit un peu comme cette espèce d'homme sauvage, oui, tout noir et malveillant. Il n'est pas encore cette espèce d'ange déchu qui crée cette terreur autour de lui. Hein. On est dans une vision qui est encore relativement, peut-être dirons-nous, primitive du diable, le personnage n'est pas étoffé au point qu'on le décrit justement à la fin du Moyen-Âge, 14e, 15e siècle, si vous regardez les très riches genres du Duc de Berry ou ce genre de littérature, où vous voyez vraiment des représentations du diable qui sont celles qui nous inspirent aujourd'hui. Donc le diable est une sorte d'homme sauvage, malfaisant, etc., qui apparaît parfois la nuit, qui est tout sombre, tout poilu, visqueux. Et donc les diablotins sont un peu dans cet esprit-là. Alors le terme de diablotin, c'est aussi à rapprocher du terme de lutin, car dans le texte original, on parle souvent de nétin. Et Nétin, justement, l'origine est assez vite établie, on se rapproche un peu du lutin. Alors le lutin est-il à rapprocher de la fée, de l'elfe, de toute créature? Non, c'est une créature un peu différente, c'est un esprit malfaisant. Mais là encore, une fois, on n'est pas dans une philosophie, enfin, ou dans une légende tolkienienne, donc on est dans le fait que les créatures surnaturelles sont des diables, des petites créatures un peu malfaisantes. Et il ne faudra pas oublier de parler des fées.
Merci Sylvain pour une fois de plus cette excellente conclusion qui fera la transition bien sûr avec nos émissions suivantes. Enfin, oui, nous parlerons des femmes de la légende arthurienne. Ne manquez pas donc ces prochains rendez-vous, on en a pour au moins deux émissions parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. Merci beaucoup Sylvain.